Bien, la discussion est ouverte. Une main élevée au fond.
Merci, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Et j'ai une réflexion à faire concernant l'autorité. Parce que quand je me suis formée en éducation spécialisée, je me rappelle qu'on était tous des non-violents, les hommes avaient tous objecté, ils avaient tous fait du service civique. Et on se retrouve en situation où on est constamment dans l'inconfortabilité, parce que sitôt qu'on reçoit 3 francs de l'État, de la loterie romande, de sponsors, c'est terrible ce qu'on doit justifier. Et ils sont de plus en plus inquisiteurs et demandeurs de telle ou telle référence. Et voilà, cette réflexion par rapport à l'autorité. Comment ça se fait que nous, justement, qui refusions l'autorité, on s'est laissé finalement un peu piéger là-dedans.
Ouais.
Parce que Dieu sait qu'on doit rendre des comptes.
Ouais.
Et on serait peut-être beaucoup plus confortable dans une hiérarchie normale où vous connaissez votre chef. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai, oui. Je pense que oui, vous avez tout à fait raison de signaler ça. Je pense que voilà, les pratiques, par exemple, d'évaluation, tout le monde a droit, il faut en évaluer sans arrêt, mais on passe son temps à faire des rapports pour être évalué. Bon. Voilà, c'est un mode de contrôle soi-disant libéral qui est en fait terriblement bureaucratique. En fait, il y a une bureaucratie néolibérale qui s'est mise en place, qui critique, oui, c'est-à-dire ce néolibéralisme, on en parlait tout à l'heure, qui critique la bureaucratie soviétique. Mais alors, putain, voilà, il y a des concurrents sévères, quoi. Les néolibéraux sont très très forts aussi en bureaucratie, quoi. Et en particulier, voilà, tout ce qui est lié à l'évaluation perpétuelle. Voilà, cette espèce de culture de l'évaluation, c'est aussi une culture éminemment bureaucratique qui finalement entrave toute possibilité d'initiative, quoi. Voilà. C'est à ça que ça aboutit. Donc oui, vous avez raison de signaler ça. Ça me semble être effectivement très caractéristique, non seulement d'une position, là, pour le coup, mais d'un système, hein, très très général. Parce que ça s'applique à tout le monde, ça. Tout le monde y a droit, quoi. La culture de l'évaluation, c'est de haut en bas, vous êtes évalué à tout instant, quoi. Bon, voilà. Donc, et avec les travers que ça comporte, je dis pas que c'est totalement idiot, hein. Bon, se demander à quoi servent les deniers de l'État, c'est pas, bon, totalement illégitime. Mais voyez, au nom de cette légitimité-là, on met en place, voilà, des systèmes bureaucratiques absolument absurdes, littéralement absurdes, gaguesques, quoi, qui sont, voilà, par rapport à des gens d'ailleurs aussi qui prétendent calculer les coûts et les avantages, ils sont. Côté coûts, ils sont pas toujours très bons, quoi. Ces trucs-là, des coûts économiques et des coûts en temps absolument faramineux, pourquoi, quoi. Bon, complètement extraits, littéralement, de la pratique qu'ils sont censés servir, quand même, quoi. Bon, vous voyez, c'est... je connais ça aussi, hein, comme chercheur, on a droit à ça aussi, on a évalué constamment, quoi. Quand je suis arrivé au CNRS, on avait un rapport d'activité à rendre tous les 4 ans. Maintenant, c'est tous les ans, il faut en faire un, et les unités, les laboratoires, tout pareil, quoi. Donc on passe son temps à faire des rapports pour les évaluateurs, donc on parle, voilà, alors on fait des discussions totalement stériles avec les évaluateurs qui, pour lesquels d'ailleurs on fait des mises en scène qui correspondent à rien mais qui font plaisir aux évaluateurs, mais on le sait bien, on sait ce qu'il faut faire pour que les évaluateurs soient contents, donc on fait un travail idiot, totalement idiot. Enfin, vous voyez, quand je disais soviétique, c'était intentionnellement, parce que c'est vraiment de ce genre-là, un travail totalement stupide, mais voilà, qui est fonctionnel, donc on s'adapte à ce truc-là et on fait des bêtises, quoi. Bon, enfin, on passe son temps à faire des conneries, quoi, littéralement, quoi. Bon, au lieu de faire des choses utiles. Voilà, je pense que vous avez tout à fait raison de le signaler, c'est dramatique.
Donc, je voulais terminer mon intervention en disant que pour avoir un champ autonome, il ne faut pas recevoir un franc de qui que ce soit, au risque de devenir soi-même petit patron. Je crois que c'est vrai. Moi, j'accueille des jeunes, ben, oui, dont une, par exemple, qui n'a aucun moyen, aucune ressource. Et je l'accueille bénévolement. Donc on retombe quand même dans des vieux principes de bénévolat, de vie, hein, religieux, séculaire.
Oui. Oui, vous avez raison, oui, c'est vrai, effectivement.
C'est peut-être la seule façon de s'en sortir.
Bah, c'en est une, quoi, dont vous signalez vous-même, voyez, les limites et les difficultés, quoi, parce que aussi, voilà, s'il y a peu de métiers qu'on puisse faire sans un radis, quoi, si on n'a vraiment pas d'argent, quoi, on est vite assez limité, quoi, bon, donc voilà, où est-ce qu'on va trouver les sous, quoi, bon, c'est, effectivement, vous voyez, c'est la limite de ce que vous dites, quoi, c'est-à-dire que, voilà, on peut essayer de s'en tirer comme ça, mais on est dans le bricolage, quoi, forcément, quoi, bon, donc, voilà, je pense que La question, elle est dans la réinvention, je crois, hein, d'une forme d'État social qui soit un peu plus efficace, un peu plus libéral, d'ailleurs, qui prétend l'être, qui donne de la place aux initiatives, aux inventions, aux bonnes pratiques, comme ils disent. Voilà. Voilà, c'est recréer des possibilités réellement de faire ce qu'ils prétendent faire. Voilà.
Que les associations ne marchent jamais aussi bien que lorsqu'elles sont précaires.
Oui, bien sûr, mais on peut imaginer, parce qu'effectivement, il y a une espèce de... Bien sûr, ça invite à l'invention. Voilà, ça invite à l'invention, c'est vrai, quoi. Bon, effectivement, quand on est bon, établi, c'est aussi routinisé, voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est une question tout à fait importante que vous soulevez là, tout à fait. Bon, j'ai vu que Michel Chauviat viendra bientôt, lui c'est un vrai spécialiste de ces questions-là, il viendra vous parler de tout ça très très bien.
Moi j'avais un commentaire à faire sur le pôle militant dont vous parliez au début de votre présentation, dont vous disiez qu'il était composé à la majorité de travailleurs sociaux des classes populaires.
Issus souvent, oui.
Et puis, par expérience personnelle, moi qui ai étudié dans une école sociale avec d'autres travailleurs sociaux, on s'est vite rendu compte, moi qui fais pas mal avec des travailleurs sociaux issus de classes populaires, que ces associations, etc., qui militaient dans ce cadre-là, et il n'y avait presque aucune personne des classes populaires qui était présente, pour différentes raisons. Souvent, c'était des associations qui promouvait un peu le progressisme au niveau de la libéralisation des mœurs, LGBT, etc. Et puis c'est vrai que nous, on était issus pas mal de familles traditionnelles et fonctionnelles où on avait un père plutôt autoritaire qui était droit, juste, qui montrait les valeurs et une mère qui s'occupait de nous, qui était plutôt dans ce rôle-là. On ne se sentait pas forcément concernés. C'est vrai que c'était plutôt nos collègues. Des fois, on se mariait un peu, on disait voilà, les bobos partent en manifestation, etc. Il y avait aussi le pôle immigrationniste, où il y a des associations pro-immigration, libre circulation, etc. Nous, on avait des pères qui étaient surtout dans le domaine de la construction, où il y a beaucoup de problèmes de dumping salarial, donc on n'y allait pas non plus, parce qu'on trouvait que ce n'était pas intéressant de ce côté-là. Et puis, il y avait aussi tout ce pôle féministe, et on ne se déplaçait pas non plus, et on ne faisait pas partie de ces groupes-là. Parce que notre ménage tournait, nos mères travaillaient, parce qu'elles avaient l'obligation, surtout dans le domaine du ménage, d'aller travailler. Et donc, nous, on était plutôt dans des parents qui étaient dans un rôle de complémentarité. Et l'égalité, cette égalité-là, nous, on ne voulait pas. Notre rêve, c'était que notre père puisse travailler seul et que notre mère n'ait pas à subir l'aliénation du travail. Et puis que je pense qu'elle-même aurait préféré l'aliénation de la famille. Donc c'était plutôt pour dire que moi j'étais pas d'accord avec ce point de vue-là. Et, oui. Et dans ces associations, on voyait beaucoup d'enfants issus de la bourgeoisie.
Oui. Voilà. Oui, je peux que souscrire à ce que vous dites. Hein. Je suis d'accord avec tout à fait ce que vous décrivez là. Grosso modo. Les dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à étudier, à travailler sur les classes populaires en France d'aujourd'hui. Ce que vous dites, enfin, me surprend pas, ça colle bien avec ce que j'en connais, ce que j'en vois, tout à fait. Donc c'est vrai que les causes militantes actuelles, celles que vous évoquez là, sont sans doute pas particulièrement populaires. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, quoi, hein. C'est pas vraiment des causes populaires. Bon, voilà, donc ça renvoie, si vous voulez, à un état du champ politique. Vous voyez, c'est un état du champ politique qui est tel que les causes dominantes, les plus visibles, vous voyez, ne sont pas des causes populaires. Sont parfois diamétralement opposées à ce que seraient des causes populaires. Ça, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé un peu à toutes les gauches social-démocrates, et pas seulement en Europe, où finalement, les classes populaires sont présentées par qui ? Personne. Voilà. Elles n'ont plus de porte-parole politique. Voilà. Parce que, de fait, voilà, on les a oubliées. Quoi. Hein, elles ont été oubliées. Je me souviens, pour le PS français, d'un rapport absolument étonnant d'un think tank du PS qui s'appelait Terra Nova. Voilà. Vous avez vu ce truc-là ? Bon, voilà, il disait, voilà, bon, les classes populaires, il n'y a rien à en faire, ils sont... ils votent tous Front National, quoi. Ce qui est faux, d'ailleurs, bon, c'est complètement faux, ils s'abstiennent. Et les classes populaires en France, elles s'abstiennent massivement. Le premier parti des classes populaires, c'est pas le FN, comme on n'arrête pas de nous raconter, c'est l'abstention. Voilà, et ils votent, parce que voilà, ils ont raison, d'ailleurs, ils sont représentés par qui ? Par personne, mais alors pourquoi ils iraient voter ? Voilà, ben, ils y vont pas. Voilà, ils restent chez eux. Donc, si vous voulez, je suis d'accord tout à fait avec la description que vous faites là. Hein. Je pense que ça renvoie à un état. Vous voyez, ça renvoie à un état du champ politique tel qu'il est aujourd'hui. C'est pas celui que décrivait Jean-François Gaspard, là je m'inspire de ce qu'il disait lui, hein, et qu'il écrit, alors un truc, d'abord c'est belge, hein, d'une région particulière ouvrière de Belgique, où il y a un parti socialiste fort qui ne ressemble pas vraiment au nôtre, en tout cas en France, voyez, où la Fédération Générale des Travailleurs Belges syndicale est extrêmement puissante. C'est ça le militantisme. C'est un militantisme, je crois, qu'on peut décrire comme authentiquement populaire. Mais c'est effectivement belge. Voilà. C'est belge et daté, hein, parce que ça date déjà d'il y a 10 ans, la thèse de Jean-François. Donc ce dont il parlait, c'était de ça. Mais vous avez raison que en disant aujourd'hui, il y a comme un décalage, quoi. Je pense que vous avez tout à fait raison de signaler. Ça, c'est un vrai problème qui renvoie à là, autre chose, qui est un état du champ politique tel que les classes populaires ne trouvent plus de représentants politiques. C'est un vrai problème, quoi. C'est pas un problème mince, d'ailleurs. Hein.
Encore deux questions dans le public, et après on passera la parole à
Jean-Christophe. Je vous remercie pour le discours que vous faites. C'est quelque chose que, j'allais dire, on connaît. Par contre, je trouverais intéressant de vous interroger sur le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, sur l'appropriation totale du social par le néolibéralisme. C'est-à-dire que moi, je vis, comme beaucoup d'entre vous ici, un phénomène qui est un néolibéralisme qui a créé une vraie profession du travail social, puisqu'on appelle la haute formation en travail social, le type universitaire, en créant par conséquent aussi des sous-métiers, hein, des professions non qualifiées, etc., des classes sociales dans le travail social. Bon, et puis, d'un autre côté, on entend un discours que j'ai apprécié, mais dont je n'ai pas de valeur et de solution, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est comment une société est complètement prise dans le social et comment elle a intégré totalement et comment elle enferme et tout ça. Et j'aurais trouvé intéressant que de votre point de vue, qui est plus traditionnaliste en fait, en définissant un petit peu les différents pôles du travail social, les différents discours, où faire quoi il faut aller, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, et comment vous faites le lien avec une société qui nous a été définie un tout petit peu tout à l'heure?
Bon.
je suggère de bloquer nos deux. Parce que je vais aller dans ce sens-là.
Oui, oui.
Comme ça, vous pouvez répondre.
Oui, d'accord, hein? Bien sûr. Oui. C'est... D'accord.
C'était un lien avec le militantisme. Et puis, l'idée que militer, c'est politique, mais ça peut être aussi faire de l'art. Et je me disais que l'art, ça pouvait être aussi un bon outil pour de le pratiquer avec les personnes issues de quartiers populaires. Et puis, justement, pour revenir sur votre conclusion, monsieur, vous avez dit que finalement, restituer une image positive des personnes et puis une réflexivité, etc., ça peut passer aussi par l'art. Et c'est peut-être plus facile de mobiliser les personnes, justement, sur des projets comme ça, plutôt que peut-être sur des mouvements politiques où ils sont parfois un petit peu éloignés de ça, je sais pas.
Mm-hmm. Alors, oui. Je propose qu'on réponde aux questions et puis.
Ok.
Alors, la deuxième question, c'est pas trop compliqué. Je peux essayer de dire un mot, oui, je crois. Hein, que ce à quoi vous faites allusion, ça renvoie à ce que j'ai évoqué, mais alors de façon très, très cursive, hein, dans cet aspect des pratiques du travail social qui visent à revaloriser symboliquement leurs usagers. Je trouve que c'est très important, ces choses-là. Donc il y a différentes façons de le faire, différentes modalités de le faire, hein, et qui sont extrêmement intéressantes, et qui toutes ont, je crois, à voir avec ce que Axel Honneth appelle la reconnaissance, ou ce que Bourdieu appelle le capital symbolique, mais c'est la même chose, la reconnaissance symbolique. C'est-à-dire l'idée qu'on a une valeur aux yeux d'autres que soi, et des autres qui comptent pour soi. Hein. Bon, ouais, quand vous êtes quelqu'un de, voilà, en difficulté, comme on dit, c'est souvent que vous avez été familialement dévalorisé, scolairement dévalué, ça c'est vrai, et pour finir sur le marché du travail, résolument, quand c'est pas sur le marché matrimonial aussi, résolument dévalué. Bon, donc vous voyez, pas cher, quoi. Bon, voilà, c'est... reconnaissance, rien, au bout de la reconnaissance négative, ça s'appelle un stigmate, quoi. Bon, voilà, donc un des aspects, à mon avis, du travail social, c'est justement de tenter de reconstituer voilà, une image de soi un peu plus positive, une meilleure image de soi, réparer hein, cette image de soi totalement détériorée, dévalorisée, etc. Et je pense qu'il y a différentes techniques, il y a différentes façons de le faire, et je pense que théoriser, systématiser, vous voyez, c'est une chose à faire, j'aurais bon, voulu en parler, mais bon, pas le temps, mais voilà, théoriser la façon de le faire, voilà, les pratiques, hein, en regardant au plus près ce que font les gens. Par exemple, je me souviens d'un travailleur social que je connaissais qui avait entre autres en charge des jeunes délinquants 1m4, noirs, 1m80, 90 kg, conçus, pensés, décrits, ayant intériorisé, qui sont quoi, des brutes. Et qui les foutait à stagiaires dans les écoles maternelles. C'était vraiment génial, quoi, parce que c'est, là, il y en a plein, et voilà, et qui racontaient comment eux, qui se pensaient eux-mêmes comme des brutes, quoi. Quand ils se retrouvaient avec des petits mots qui avaient 3 ans, quoi, ils ne pouvaient pas être des brutes, quoi. Ils étaient obligés de se comporter autrement, et donc faisaient l'expérience, vous voyez, à travers la pratique, le métier, quoi, de s'occuper des enfants, bon, ouais, qui pouvaient être autres que ce qu'on les décrivait usuellement, voilà, qu'ils étaient autre chose que des brutes, quoi. Voilà, bon, vous voyez, c'est tout simple, mais c'est extrêmement important parce qu'à travers ça, vous voyez, on restaure, on travaille à restaurer une image de soi complètement dévaluée, complètement dévalorisée, ouvrant une possibilité d'être autre chose. Voilà, les pratiques artistiques, c'est du même type, quoi. Dire que voilà, bah attends, du rap, tu pourrais essayer, quoi. Bon, peut-être que tu vas y arriver, peut-être d'ailleurs tu vas être bon parce qu'il arrive qu'il y en ait des bons. Voilà, donc il y a ou le foot, pourquoi pas. Bon, voilà, le sport, c'est un truc classique, quoi. Bon, voilà, t'es pas très bon à l'école, quoi. Bon, en mathématiques, mais bon, sur un terrain de foot, tu peux être meilleur, quoi, ça arrive, hein. Tu peux même être très bon, quoi. Bon, voilà, c'est aussi autant de manières, je crois, de restaurer, vous voyez, de jouer sur cette économie du capital symbolique, c'est-à-dire que en déplaçant le terrain vers un terrain inhabituel et peu fréquenté, tu peux découvrir que tu vaux quelque chose là où, partout ailleurs, on a décidé que tu es un mauvais fils, un mauvais élève et un mauvais travailleur. Quoi. Bon, c'est dur, quoi, bon, à porter, en général, c'est ça. Hein. Bon, donc voilà, c'est être un bon footballeur, un bon rappeur, un bon, etc. Vous voyez, bon, qui a la possibilité, sur un autre terrain, de, voilà, de restaurer son image. Voilà, alors c'est une chose tout à fait importante. Quant à votre question, beaucoup plus vaste, je reconnais bien sûr tout à fait la portée et la valeur. Je ne sais pas très bien vous répondre, quoi, parce qu'il faudrait faire des très... je ne sais pas, j'ai pas de clé dans ma poche, hein, ce qu'on peut faire, en tout cas ce qu'un sociologue peut faire, ou ce qu'il fait dans ces cas-là, c'est d'essayer de montrer comment, petit à petit, les pratiques dites néolibérales, c'est-à-dire finalement le paradigme de l'homo economicus généralisé, tente à se répandre de plus en plus dans les différents univers du monde social. Voilà. Donc il faudrait montrer ça. Voilà. Il y a des travaux qui ont été faits. J'en ai fait aussi, par exemple. J'avais fait une enquête sur une catégorie de travailleurs sociaux aussi. Mais, voilà, j'ai oublié. Sur les professionnels de l'insertion, quand c'est né cette affaire-là. Bon, je m'étais fait d'ailleurs incendier littéralement quand j'avais publié cet article dans la revue de Bourdieu, dans les actes de la recherche sociale. J'avais reçu des volets de bois vert. On me disait, bon, voilà, c'est une critique insupportable du travail social, quoi. Quand je disais, qu'est-ce qu'ils font au juste? C'est quoi là, cette pratique au juste? Qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Bon, voilà. Donc c'était très objectiviste comme pratique. Je ne voulais pas mettre en cause les agents, hein, c'est pas genre voulait aucun mal. Je disais que bon, voilà, cette pratique qui a été au principe de l'invention des contrats de courte, des contrats courts, machin, qui a répondu petit à petit le travail intérimaire, qui a contribué à la banalisation du travail intérimaire, des contrats des CDD, etc., en tout genre, sur les stages, sur la pratique du stage comme une espèce de pratique généralisée, comme une espèce de problématique, il est devenu absolument incontournable pour accéder au marché du travail, etc. Comment ils ont de fait objectivement contribué à ça, voilà, les inséreurs, quoi. Bon, voilà, ce job particulier, bon, avec, on pourrait continuer aujourd'hui, hein, sur les stages pour apprendre à faire un CV, à se présenter comme il faut, à mettre sa casquette à l'endroit, plutôt qu'à l'envers, enfin, voilà, de toutes ces choses-là qu'on apprend aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On peut se demander ce qu'on fait quand on fait ça. Et ce qu'on fait, je crois que c'est qu'on valide aussi, on diffuse en quelque sorte ce modèle de l'homo economicus rationnel, de cet homme rationnel qu'on nous propose à chacun d'entre nous d'être. Voilà, donc ce serait une manière, si vous voulez, d'aborder la question que vous posez. C'est pas très réjouissant, hein. On peut dire que ça ne cesse de progresser. Voilà. Alors comment faire pour enrayer la machine? C'est une autre question proprement politique. Comment est-ce qu'on peut enrayer la machine? Je pense que c'est une question politique complètement centrale aujourd'hui. Hein. C'est une question évidemment centrale, de façon très générale. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre comme ça. C'est pas tout à fait évident. Voilà, ça pose vraiment des tas de questions, parce que ça pose la question d'une critique efficace, c'est-à-dire mobilisatrice, hein, pas simplement il ne s'agit pas de faire le malin, d'être intelligent, quoi. Il s'agit aussi d'être capable, c'est très marxiste ce que je dis là, il ne s'agit pas simplement d'expliquer le monde, il faut au contraire le transformer, c'est-à-dire dire, c'est proposer des explications telles qu'elles soient capables de mobiliser les gens efficacement contre. C'est un enjeu, à mon avis, politique et intellectuel tout à fait important, mais c'est pas très facile, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que ça met en question des questions des questions anthropologiques tout à fait centrales, qui est au fond, si je devais la résumer en un mot, mais je ne vais pas m'éterniser là-dedans, parce que pour que ce soit intelligible, il faudrait être trop long, quoi. C'est la question de l'intérêt, de façon au sens très, très général, et du désintéressement. Voilà, c'est au fond à quelles conditions une action désintéressée est-elle possible? Comment revaloriser des actions désintéressées? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une action désintéressée, etc. Voilà, je indique comme ça très rapidement quelques-unes des questions anthropologiques centrales que ça pose, mais qui sont aussi des questions politiques fondamentales. Quand on défend le service public, quand on défend l'intérêt général, vous voyez, d'une certaine façon, c'est une façon de défendre le désintéressement. Vous voyez, c'est des mots, ce que je dis là. Il faut en faire des mots qui soient des causes. Des causes, c'est-à-dire qui mobilisent les gens, qui font qu'ils y croient, ils y adhèrent, ils se battent pour. C'est une question très chère que vous posez là. C'est une question tout à fait essentielle, mais c'est pas très facile d'y répondre, parce que s'il y avait une réponse, ça se saurait, on n'en serait pas là.
Je propose que Jacques Mascotto.
Oui, alors. Tu interviens. Monsieur Auger a quand même terminé par une question. Le travail social est-il un champ en lui-même, avec son propre capital, etc. Je pense que je suis très pessimiste. Je pense qu'il arrive au travail social s'il est arrivé au travail, à savoir l'expropriation du savoir-faire. Et par une privatisation et une organisation du travail social. Je vais vous citer deux auteurs qui ont réfléchi sur le travail contemporain. Le premier, c'est un Allemand, c'est Klaus Hoffe. Il dit la chose suivante. Les activités qui consistent à enseigner, soigner, planifier, organiser, négocier, contrôler, administrer, conseiller... En termes plus généraux, les activités qui consistent à écarter, absorber ou traiter les risques et les dérivations de la normalité représentent un travail intégré dans les entreprises publiques et privées. Ce que mon collègue Bischoff, Manfred Bischoff, un autre Allemand, mais il vit au Québec, ce système engendre de plus en plus des besoins qui n'ont plus pour siège l'individu, mais les organisations, pour le dire autrement, entre le moment de la transformation des besoins des individus et celui de leur satisfaction, le détour productif n'a cessé de s'allonger en raison de la nature et de l'ampleur des moyens mis en œuvre, notamment les méga-machines, et des organisations mobilisées pour le faire. Ce détour productif finit par s'incorporer l'ensemble de la vie sociale en le transformant en vaste going concern, et cela à un point tel qu'il finit par prendre en charge non seulement les conditions les plus élémentaires des vies humaines, mais aussi les conditions sociales et sociétales. Au travail économique succède un travail social, un travail sous generis du système sur lui-même, un travail non plus de production économique, mais de reproduction du social. Ça veut dire que le capitalisme est en train de vous transformer en sous-traitant. C'est-à-dire que les qualifications requises pour, en quelque sorte, être du vrai travail social à part entière avec une qualification et reconnu comme un travail institutionnel avec des buts, des normes et des idéaux, c'est pris en charge de façon tout à fait opérationnelle et normale dans le fonctionnement normal des organisations qui ont toute une gang de psychologues attitrés, etc., etc. Ils prennent en charge leurs employés, etc. Et que vous, qu'est-ce que vous avez? Ils vont vous balancer le retour du refoulé et que finalement, ça fait comme un de mes étudiants. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit, ben, je passe ma journée à téléphoner à des abris, à des soupes populaires pour trouver des places. Et c'est à ça que je suis réduit. J'essaye de trouver ici un abri, ici un psychologue qui veut bien l'aider, ici une pharmacie de nuit, ici un médecin qui veut bien lui donner de la méthadone, des trucs comme ça. C'est ça qu'il fait. Il y a une expropriation. Il arrive au travail social, ce qui est arrivé dans l'histoire du travail, comme Marx l'expliquait, subsomption réelle et totale du travail social. Et vous, à partir de ce moment-là, il va être où votre champ parce que les organisations privatisent le travail social, ce qui était noble et tout ce qui était, toutes les activités que j'ai nommées, et il va vous rester à être les femmes de chambre de l'hôtel. Parce que de plus en plus, le capital, c'est aussi les organisations corporatistes qui intègrent toute une forme de travail social sous généris à elles. Et elles privatisent et elles grugent. Et le travailleur social, bah vous êtes... l'avenir n'est pas rose.
Merci Jacques pour cette pensée.
Monsieur Auger a raison. D'un point de vue du théoricien, il dit, putain, c'est vrai. Pourquoi le travail social n'aurait pas son propre champ symbolique? Je m'interroge. Ben, je dis, il l'avait peut-être. Il est en train de... L'horizon de le compléter, il disparaît de plus en plus. Ça, il me semble. Hein.
Oui,
je vous ai bien suivi dans l'affaire.
Je ne suis pas en désaccord avec vous. C'est, malheureusement, le vent ne souffle pas du bon côté.
Mais j'ai fait comme vous. Moi j'ai vu que je n'avais pas de temps. J'ai escarté plein de choses. Là, comme ça, je me suis dit...
Bien, après cette note très positive... d'une espérance à venir. D'autres questions pour nourrir la réflexion. Dominique, tu as une question. Ah, on va te passer le micro, comme ça on entendra. On peut commencer par devant, ensuite on ira par derrière. Enfin, devant comme derrière.
Est-ce que vous précisez
ou de côté, c'est... Pourvu qu'on reste dans le champ.
Ah ouais.
sans trop changer les habitudes, quand même. Hein. Allez-y.
Bonjour, j'aurais une question qui adressait aussi bien à M. Basse-Coteau et à M. Bonjour. Merci, les deux. Très éclairage, ça pose la question... Est-ce que prétentieusement, on a pu appeler la suicidalité, est-ce que vous avez dit modestement le suicide, et vous avez dit une chose qui m'a beaucoup frappé, entre autres, dans le temps, même le temps nous est limité. Enfin, c'est pas de sociologue que je vais dire ça, pas de sociologue capitaliste, que le temps nous est limité. Vous avez dit que le suicider, laissant de côté le suicidaire, la majorité, a un souci du monde, et vous avez dit d'un souci de la société. J'aurais presque envie de dire, tant qu'il n'y a pas société, il peut y avoir critique sous forme d'anéantissement, avec néanmoins un message adressé non seulement aux proches, mais aussi à la société. Et ça me fait revenir à un suicide que j'ai connu dans mon entourage, je ne peux pas en dire plus, par pudeur, il y a un peu plus d'une année. Qui me laisse un souvenir étrange parce que enfin, c'est un peu compliqué de passer de l'objectif personnel au général, mais on peut le faire. Ça, quelqu'un comme Jean Béchler a préparé le terrain aux psychiatres, aux psychopathologues qui ont pris la typologie telle qu'elle, sa typologie des buts anthropologiques du suicide, pour faire une typologie des buts psychiatriques du suicide. Et j'ai l'impression qu'on ne sait toujours pas si un suicide est un message adressé aux proches, l'expression d'une pathologie, ou s'il est un message adressé à la société, et si finalement on ne tranchera jamais. Parce que ce qui m'a étonné, c'est que le suicide réel auquel je pense a été ce qu'on peut appeler un suicide spectaculaire, qui plus est fait avec le moins possible de moyens. C'est quelqu'un qui s'est jeté de son balcon. Alors, bien sûr, nous, les proches, avons été les plus affectés. Nous nous sommes toujours terriblement. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un message politique consistant à dire voilà, je me jette de chez moi parce que la personne qui, je pense, était mobée sur son lieu de travail, parce que ça ne vaut pas la peine de sortir de chez moi. Quand elle a rebondi sur le sol, pas rebondi, enfin, je ne vais pas vous donner de détails, elle a arrêté un bus. Alors, ne pas avoir un message, arrêtez-vous un moment sur l'autre, sur les misères, arrêtez-vous, société. Alors, je reste interpellé par ce que vous dites, parce que on n'arrivera jamais à psychiatriser totalement le suicide, ni à être content de ce que la sociologie a pu en faire, puisque ça ne soigne pas les gens. Alors, je passe à vous, M. Mascotto. J'ai dit très flou parce que je ne suis pas très informé, mais c'est pas grave. J'ai peut-être compris vaguement autour de quoi je tournais. Je n'ai pas la prétention d'assumer des choses. Alors, je ne sais pas. Je trouve fascinante cette question que, même quand on veut interpréter individuellement un suicide, on reste quand même dans un message collectif, parce que ça touche plus que la sphère des particuliers. On dit.
Je peux commencer, monsieur Auger.
Je vous en prie, bien sûr.
Il y a toujours une part de mystère, et j'espère qu'on ne le saura jamais. Mais ce que je crains dans la dissolution de la société comme tout structuré, dans le social organisé, c'est pas la même chose, la société institutionnelle instituée, les pratiques instituantes de l'institutionnalisation et les pratiques d'organisation et de réglementation, ces deux choses, il me semble que tant qu'il y a encore un sentiment d'existence de société, on va avoir recours, quand il y a à un moment donné une situation très pénible, à des suicides. Mais il me semble que dans la société la plus avancée du point de vue de la dissolution de la société dans le social, c'est-à-dire les États-Unis, je pense que c'est pas aux États-Unis qu'il y a les taux de suicide classiques, mais à ce moment-là, le suicide prend une forme différente. Il n'y a plus de souci du monde, il n'y a plus de souci de la société puisqu'elle est complètement dissoute. Il y a suicide par tuerie. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont, ils vont se faire tuer, mais avant d'avoir tué, déréglé d'une façon meurtrière et anéantissante des centaines de gens dans les écoles, dans son bureau, dans la rue. Et le suicide, ce qui prouve une chose, c'est le suicide et le désespoir. C'est encore une forme qu'il y a quelque chose qui reste encore. Tandis que les tueries collectives, là, on n'est plus du tout là-dedans. Là, on est dans la pulsion de mort telle qu'elle découle de l'extrême valorisation du capital et que l'individu veut valoriser sa mort. Là, il veut la valoriser dans le même principe que le capitaliste, c'est-à-dire j'ai mon or de gloire, je suis un héros, etc. Puis je vais aller jusqu'au bout de la valeur, c'est-à-dire Vernichtung, l'anéantissement. Voilà ce que votre intervention me suggère.
Comme vous n'avez pas pu le faire, je plaide pour que Gérard Auger, pour reprendre l'expression de Pierre Brodieu, nous fasse une esquisse de la construction d'une image positive de lui-même. Parce que si je dis ça, c'est que il nous dit de regarder les manières de faire, nous dites-vous, mais c'est justement le sens du mot clinique, hein, au pied du lit. Donc, si je dis ça, c'est parce que les plus vieux d'entre nous se rappelleront qu'il y a eu un colloque qui a été provoqué par la revue Le Lien Social à Toulouse, où il y avait quand même pas mal de monde, et la thématique de ce colloque, c'était « le travailleur social est-il un militant ?» Et sans parler de la réponse, évidemment, il y avait un clivage, mais que vous ne n'évoquez pas forcément, parce que si on passe à pieds joints sur le mot clinique ou qu'on restreint à la définition qui m'a été donnée, qui est quand même un peu facile. À ce moment-là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, c'est ça. On en revient à ce qui a été amorcé dans la réponse, c'est qu'il y avait un clivage entre ceux qui travaillaient entre quatre murs dans les institutions et ceux qui, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont dans la visite, même si c'est moins simple que ça, qui étaient en gros dehors dans la prévention ou bien dans l'assistance sociale. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que je trouve que ces trois pôles de Gaspard, c'est un peu une caricature. C'est un peu du forcing pour arriver à anesthésier un peu ce que vous avez amorcé, et malheureusement que amorcé, en parlant des intermédiaires. Parce que je pense que ce que vous auriez pu dire sur les intermédiaires, ça peut être, probablement, je suppute que ça éclairait ce que vous entendez sur construire une image positive de lui-même, et je ne pense pas évidemment à la marque Carrefour.
Oui, vous avez raison, hein, je ne peux qu'approuver. Non, je ne dis pas que, d'ailleurs, je n'entendais pas, en parlant de la thèse de Jean-François Gaspard, dire que voilà, il avait défini pour l'éternité, pour toutes les situations possibles, ce que c'était que le travail social. Je pensais que c'était une manière, si vous voulez, de donner une première approche, de décrire, si vous voulez, dans un état donné, j'ai précisé ensuite en Belgique, hein, voilà, donc, dans une partie particulière de la Belgique, pas n'importe où, vous voyez, bon, une description qui me semble, bon, avoir l'intérêt, si vous voulez, de permettre de poser des problèmes. Voilà, parce que, si vous voyez, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément complète, exhaustive, ni même juste. Après tout, peut-être on peut la critiquer, dire que ce pôle-là n'existe pas, qu'à la place il faut en inventer un autre, que, etc. C'est permis, hein. Je veux dire que, voilà, quoi, je vous ai dit aussi que moi j'avais pas de compétences particulières en la matière, parce que ça n'a jamais été pour moi un objet d'enquête. J'ai jamais vraiment travaillé là-dessus. Je l'ai fait de façon un peu latérale. J'ai été amené à y réfléchir parce qu'on m'a sollicité de le faire. Bon, voilà, je le fais avec plaisir, mais voilà, l'idée, c'est simplement, et d'ailleurs je l'ai indiqué, je crois, si vous voulez, en proposant, vous voyez, des modalités d'analyse qui se déplaçaient au fil, comme ça. J'aurais pu continuer, parce que j'ai mal calculé mon temps, mais j'aurais pu continuer à indiquer des manières un peu différentes, vous voyez, un peu décalées, de poser le problème, qui, à mon avis, sont toutes à recomposer. C'est-à-dire qu'il faudrait toutes, vous voyez, c'est donner un certain type d'image, un autre type d'image, un autre type d'image. Bon, une fois qu'on a fait ça, il faudrait, vous voyez, resuperposer toutes ces images et voir quelle image il résulte de tout ça. Vous voyez, c'est une espèce de déplacer un tout petit peu le point de vue à chaque fois qui permet de reconstruire ou voir autrement les choses. Vous voyez, c'est cumulatif, à mon avis, je crois. Dans mon esprit, c'est assez largement cumulatif. Donc, recomposer une image plus juste, vous voyez, et améliorer, rectifier, voilà, c'est aussi ça, hein, c'est très, enfin, dans la perspective sociologique qui est la mienne, bachelardienne, hein, c'est on rectifie, c'est une erreur, la science, la vérité, c'est une erreur rectifiée, voilà, c'est rien de plus que ça, c'est rectifier un peu les choses. Donc voilà, je suis tout à fait sensible à ce que vous avancez, l'idée qu'on peut rectifier ça, certainement, hein, ça, je suis le premier à accepter tout à fait qu'on puisse et qu'il faille rectifier cette image qui est sans doute, bon, voilà, trop simple.
Si j'ai dit ça, c'est simplement parce que comme vous avez passé beaucoup de temps sur ces trois pôles, du coup, on a été privé.
C'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je suis désolé. Hein.
Mais la frustration ouvre à d'autres aventures possibles. Une vérité, c'est que nous avons terminé et que je vous remercie encore une fois de votre participation et de votre confiance en venant à ces rencontres improbables mais prévues. En vous souhaitant un excellent week-end, en rappelant que Bernard Friot sera présent à 20h30, sauf erreur, pour une conférence. Patrick va vous en parler avant de vous libérer.
Alors, penser les travaux sociaux avec Karl Marx, ça se termine maintenant, mais ça reprend ce soir, puisque c'est penser avec et après Karl Marx, organisé dans des rencontres organisées par le groupe Jouvain de Philosophie. Ce soir, on a la chance d'entendre Bernard Friot qui fera une conférence, et puis demain, je signale aussi que Jacques Mascotto reprendra la question autour de la nation et du capitalisme contemporain. et puis qu'on parlera tout le week-end en fait de différents aspects avec Karl Marx. Donc vous êtes tous invités bien sûr à venir puisque l'entrée est libre et ça dure tout le week-end. Donc voilà, bienvenue à la suite de ces rencontres autour de Karl Marx. Et merci aussi pour votre attention aujourd'hui. Et bien sûr, dans l'espoir de poursuivre ce travail autour de la pensée, avec du travail social, avec la pensée d'autres personnes. Je vous remercie.
Merci à vous.